Chapitre 7. La veille de l'inauguration, les invités de Henry Cabot Lodge se séparèrent par petits groupes pour partir se promener dans l'exposition et profiter du calme précédant la tempête de la cérémonie officielle. Henry James resta avec Henry Adams qui lui-même suivait partout Lizzie et Don Cameron. Mais dans l'après-midi, Adams partit seul comme il l'avait déjà fait la veille. Un rendez-vous avait été pris pour se rassembler à la jetée à 19h et embarquer sur la vedette pour retourner au yacht. Il devait se rendre ensuite par le lac à une soirée chez le maire de Chicago, Carter Henry Harrison, un charmant et dynamique populiste de 68 ans qui venait d'être réélu et avait charmé même la jeune Hélène quand il l'avait rencontrée dans la matinée. Mais à l'heure dite à la jetée, Adams manquait à l'appel. « Je pense savoir où il est », dit Holmes. Les attractions le passionnent tant qu'il a tendance à perdre la notion du temps. Partez sans nous, mais renvoyez-nous la vedette. Je serai de retour au ponton avec Monsieur Adams dans moins de 20 minutes. Le sénateur Don Cameron intervint. Lydie et moi allons attendre aussi. Nous rentrerons au yacht quand vous ramènerez Adams. Les autres embarquèrent et Holmes suivit des yeux la puissante vedette qui labourait les eaux vers le groupe de bateaux de plaisance dont faisait partie le noble Albatros, arrêté non loin de l'USS Michigan, un navire de guerre à coque métallique. Holmes avait découvert la galerie des machines en compagnie d'Adams et le vieil historien avait été fasciné par les dynamos et autres appareils destinés à produire de l'électricité. Techniquement, aucune des attractions de l'exposition universelle de Chicago fonctionnant à l'électricité ne devait être mise en marche avant midi le lendemain, heure à laquelle le président Cleveland devait appuyer sur le gros bouton en or massif d'un manipulateur télégraphique posé sur un coussin de velours rouge. Cette action ferait non seulement se déployer un millier de drapeaux et de fanions, mais elle fermerait aussi le circuit qui alimentait la gigantesque machine à vapeur d'une puissance de 3000 chevaux construite par les usines Alice, abritée dans cette galerie. Et puis, à force de fouiner et de poser des questions, Adams avait découvert l'existence de la dynamo la plus importante, celle qui alimentait déjà la ville blanche en électricité et propulsait le train jaune qui desservait la foire. C'était la dynamo la plus grande du monde, et elle était presque cachée dans le bâtiment de l'Intramural Railroad Company, situé tout au bout de l'exposition, derrière des arbres et des constructions plus hautes. Ce bâtiment technique recevait très peu de visiteurs et n'était occupé que par les machinistes qui surveillaient le fonctionnement de la centrale électrique. La pièce en fonte portant la bobine était plus grande que l'arche de l'entrée de l'hôtel particulier de Henry Adams, mais les roues de près de 5 mètres de hauteur, qui pourtant s'enfonçaient en partie dans des fosses creusées dans le sol bétonné, faisaient figure de géante à côté du reste des machines et des hommes. Holmes avait aidé Adams à chercher cette dynamo le samedi, mais une fois qu'il l'avait trouvée, le détective avait admiré la machine à peine une minute, juste assez longtemps pour entendre un technicien crier à Henry Adams par-dessus le vacarme qu'en cet instant, la dynamo alimentait 10 kilomètres de voies ferrées et 16 trains circulant simultanément, puis il avait laissé Adams seul dans le bruit infernal et l'odeur d'ozone. Il se doutait que l'historien était retourné voir la dynamo du chemin de fer dans son bâtiment écarté et pratiquement sans fenêtre pour admirer la fantastique puissance de cette nouvelle source d'énergie inventée par l'homme. Quand Holmes entra dans la galerie, il aperçut Adams dans l'ombre des poutres et des roues. L'historien devait mourir de chaud car il soulevait sans cesse son canotier pour s'éponger le front avec son mouchoir en lin. Les lampes industrielles qui pendaient du plafond, dépourvues d'abat-jour, faisaient étinceler son crâne chauve dès que son chapeau quittait sa tête. Il discutait avec un jeune homme de grande taille vêtu d'un costume en laine, beaucoup trop chaud, qui devait être un Indien d'Amérique, à en croire ses longs cheveux noirs, son nez busqué, sa peau cuivrée et ses yeux noirs. Adams lui tenait de grands discours, animés d'un enthousiasme juvénile. « Ah, c'est extraordinaire, Monsieur Slowhorse. Les Grecs de l'Antiquité auraient été ravis de voir ce prodige et les Vénitiens nous l'auraient envié, même au sommet de leur puissance. Chicago nous a apporté, comme par provocation, une chose infiniment plus audacieuse que l'art, plus importante que l'argent. Je ne sais si c'est un bien ou si c'est un mal, mais c'est l'avenir, Monsieur Slowhorse. Le mien, le vôtre, c'est certain. J'ai peur de ce qui nous attend. Mais j'ai de l'espoir aussi. J'ai beau m'amuser à envoyer des cartes postales pour dénoncer l'artificialité du Midway Plaisance et les abus qui entourent sa construction. Je ne me lasse pas de traverser la galerie des machines et je veux revenir ici tous les jours pour contempler comme un vieux fou cette dynamo de l'avenir. » Semblant prendre conscience d'être trop sentencieux, il souleva son canotier pour s'essuyer le front et s'adressa de nouveau à son interlocuteur, mais d'un ton moins docte, sans voir Holmes qui approchait derrière eux. « Toutes mes excuses encore une fois. Voilà que je recommence à vous abrutir de paroles. Et vous, que pensez-vous de cette dynamo et des merveilles encore immobiles de la galerie des machines où je vous ai vu déambuler bouche bée tout comme moi, monsieur Slowhorse ?» L'Indien réfléchit avant de prendre la parole d'une voix qui étonna Holmes par son volume. « Je pense, monsieur Adams, que c'est la vraie religion, la révélation de votre monde. » Entendant qu'Adams se lançait dans une réponse qui menaçait d'être longue, Holmes attira son attention. Il savait que l'Indien l'avait vu entrer dans la grande salle et ne l'avait pas perdu de vue un seul instant. Adams disait « La Vierge Marie était aux hommes du XIIIe siècle ce que cette dynamo et ses sœurs seront aux... » Voyant enfin Holmes, il s'arrêta. Il retira de nouveau son canotier. « Monsieur Slowhorse, puis-je vous présenter mon compagnon d'exposition d'aujourd'hui ?» l'éminent explorateur norvégien, monsieur Jan Sigurdsson. » Au lieu de tendre la main, Holmes s'inclina brièvement, talons joints, vers le grand homme brun, presque à l'allemande. L'Indien répondit d'un petit signe de tête, mais sembla tout aussi peu enclin que Holmes à lui serrer la main. Sans savoir comment, Holmes avait la certitude que ce jeune homme était un Sioux, pas si jeune d'ailleurs, à en croire les ridules au coin de ses yeux. Il ne lui donnait qu'un ou deux ans de moins que lui, soit 37 ou 38 ans. Un Sioux donc, et même un Sioux Lakota de ceux que Holmes avait rencontrés 17 ans plus tôt, et plus précisément un Witchasawakan, c'est-à-dire un saint homme de cette tribu, un chaman ayant reçu la capacité d'accéder à des dimensions ignorées du commun des mortels. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Slowhorse, » dit Holmes. « Nous autres Européens... nous avons rarement l'occasion de voir de véritables Witchasawakan du peuple des êtres humains libres naturels. » L'Indien, dont le vrai nom n'était pas Slowhorse, comme Holmes l'avait compris dès qu'ils avaient été présentés, regarda le détective avec une attention accrue, extrêmement surpris que cet homme blanc connaisse les termes Lakota exacts. Henry Adams, tenant son canotier entre ses mains, recula de deux pas pour s'éloigner des deux hommes, ayant l'impression d'avoir devant lui deux grands aigles qui se jaugeaient du regard. Holmes rompit cette évaluation le premier. Il se tourna vers Adams. « Je vous demande d'excuser cette interruption, Henry, mais Lizzie et le sénateur nous attendent à la jetée principale, à l'arrêt Franklin des bateaux à vapeur. Nous risquons d'être un peu en retard pour le dîner du maire. » Adams dit quelques mots à l'Indien pour prendre congé de lui, et Holmes s'inclina de nouveau, préférant encore une fois, sans raison consciente, ne pas toucher sa main nue. « Ce fut un plaisir, monsieur Slowhorse, et j'espère sincèrement qu'un jour le Wasichuwanagi ne vous causera plus d'ennui. » Holmes se demanda ce qui l'avait poussé à dire qu'il espérait que l'esprit de celui qui prend le gras, c'est-à-dire l'esprit de l'homme blanc, n'importunerait plus cet homme. Ce dernier, cachant mal sa surprise, ne répondit pas. Gêné, Holmes sortit avec Henry Adams de l'atmosphère assourdissante du bâtiment du chemin de fer, mais s'arrêta au bout d'une centaine de mètres. Il toucha le bras de l'historien. « Prenez la vedette avec les Cameron. Je viens de me souvenir d'une dernière chose que je dois faire. » « Ah ?» Adam semblait troublé, comme s'il avait vu ou perçu quelque chose d'inhabituel. « Allez-y, mais ne manquez surtout pas le dîner de Harrison. Ce serait très dommage. » Holmes opina du chef, quoique n'ayant pas écouté un traître mot de ce que disait Adams. Il fit demi-tour et retourna au pas de course au bâtiment du chemin de fer. L'Indien n'y était plus. Holmes courut sur les sentiers de terre battue et les étroites voies qui ramenaient à l'esplanade du côté de la gare, se disant que si cet Indien appartenait à la troupe de Buffalo Bill qui se produisait à l'extérieur de l'enceinte de ce côté-là, il passerait par cette porte pour quitter l'exposition. Il avait vu juste et le rattrapa juste avant que l'homme ne passe les tourniquets métalliques de la sortie. « Monsieur Slowhorse !» Le grand Indien se tourna lentement vers lui. Il n'eut pas l'air surpris de le revoir. « Je... » bégaya Sherlock Holmes. « Il y a quelque chose que je dois... Si vous pouviez m'aider à... Pardon, vous ne vous appelez pas vraiment Slowhorse, je crois. »«
Non, je m'appelle Pahasapa. »«
Colline Noire, » murmura Holmes.
« Et vous ne vous appelez pas vraiment Sigurdsson, » poursuivit Pahasapa. « Vous n'avez même pas essayé de cacher votre accent anglais. »«
Je m'appelle Sherlock Holmes. » Il tendit la main et après une hésitation, l'Indien la prit. Holmes éprouva un choc d'une force exceptionnelle, comme il n'en avait jamais éprouvé, ou du moins pas depuis qu'il avait été frappé par les trois balles sur les pentes de l'Himalaya. Il comprit que Pahasapa avait senti passer le même courant entre eux, Quand leurs mains se séparèrent, l'énergie dégagée les entourait encore, bien plus puissante que le courant résiduel qui circulait dans la salle des dynamos. « Je dois vous demander, Paasapa, comment savoir si je suis un être réel ou pas ?»«
Wijastakaspa kinia, »
répondit Paasapa. Holmes comprit à peu près, l'homme sage parle.
« Mais je ne sais pas encore si je suis un sage, »
termina Paasapa en anglais. « Parlez quand même. Il est clair que je ne suis pas capable de répondre moi-même à cette question. » Le regard de Paasapa le transperça, une sensation aussi physique que l'impact d'une flèche.
« Tous les hommes qui naissent du ventre d'une femme sont réels, »
dit Paasapa.
« Cependant, certains d'entre eux le sont moins que d'autres. Ils ont une existence, mais ténue, faible en réalité. Les êtres les plus puissants sont ceux qui s'imposent à l'existence par les champs.
Je ne comprends pas.
Les six grands-pères ne sont pas nés du ventre des femmes, mais ils n'en sont pas moins réels. C'est moi et tous mes pères et grands-pères avant moi qui avons contribué à les rendre réels par nos chants. »
L'expression de Holmes parla pour lui. Mais comment ?
Nous chantons leurs histoires.
Par la suite, Holmes ne se rappela pas si ces paroles avaient été prononcées en Lakota ou en anglais.
Nous racontons leurs histoires et surtout, nous apprenons aux autres à les raconter.
Paasapa s'interrompit une seconde avant d'ajouter avec une intensité particulière
« À les raconter et à les croire. »
« Oui, » acquiesça Holmes sans trop savoir ce qu'il approuvait, mais persuadé de toute son âme que ce qu'il entendait était vrai. « Il a maillaillé. Merci. » Il aurait voulu en dire plus, mais les mots lui manquaient. Il s'apprêtait à repartir quand Paasapa la grippa fermement par le haut du bras. Ce contact donna de nouveau à Holmes l'impression d'être au centre d'une dynamo en rotation.
« Lukan kte !» reprit Paasapa. « Lukan va te tuer. »
Holmes sentit une main glacée se refermer sur son cœur, mais il parvint à la repousser.
« Holmes, unktepi, yakte !»
C'était presque un murmure, mais Holmes eut l'impression d'un cri de guerre fougueux lancé dans le vent de la prairie. « Holmes, tu dois le tuer. Toi, tu le tueras. » « Oui, » murmura Sherlock Holmes. Paasapa sourit et sa voix grave reprit les tons plus doux de la conversation.
« Tokshake chanteista, wasinyanktin ktelo, etchetu, mitakuya oyasin. »
Holmes comprit parfaitement. « Je te reverrai avec les yeux du cœur, qu'il en soit ainsi. Par la parenté, nous sommes tous liés. »
Mitakuya Oyasin,
répondit Holmes. Par la parenté, nous sommes tous liés. Les deux hommes partirent chacun de leur côté, et il fallut au moins 2 minutes à Holmes pour se souvenir qu'il devait retourner à la jetée où le vapeur l'attendait.